quoi ton petit nom ?
Fréquence Paris Pluriel.
Ça, c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
FPP 106.3, le programme des archives de Fréquence Paris Pluriel, chaque jeudi de 16h à 17h et en podcast sur rfpp.net, rubrique archives.
Je vais les consulter, mes archives.
Je conserve tout.
Et aujourd'hui, dans le programme des archives de Fréquence Paris Pluriel, rediffusion de l'émission Vive la Sociale du 4 septembre 2008 sur le mouvement sans terre au Brésil. On écoute tout de suite.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, avec l'équipe de Vive la Sociale, qui ce soir a invité Douglas Esteban, qui est originaire du Brésil, et qui a participé, qui a travaillé pendant 5 ans avec le mouvement des Sans-Terres, et à qui on a proposé de venir parler justement de cette expérience qui est déjà un peu ancienne et toujours très vivante. Juste une petite mise au point par rapport à la lutte d'Hélène et Philippe qu'on a évoquée l'année dernière, à notre dernière émission, il y a 15 jours.
Bah, tout simplement, on a appris que le référé qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reporté. Bon, on ne sait pas à quelle date, éventuellement, on vous tiendra informé. Voilà, c'était le référé que le patron fait pour les empêcher de rester devant le magasin avec leur banderole. Donc c'est au mépris de toute liberté d'expression les plus élémentaires. Voilà.
Bon, et donc la lutte continue, autrement dit. Bon, revenons donc au Brésil. Et Douglas, peut-être que tu peux dire deux mots de ce qui est d'abord de ce qu'a été ton expérience avec le mouvement des Sans-Terres pour... ton expérience personnelle ?
Bonsoir. Et tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que je ne parle pas très bien le français et je vais faire des erreurs. Et
oui,
bien...
Nos auditeurs sont très compréhensifs. Ça nous arrive souvent.
Et bien, moi, j'ai fait partie du mouvement Sans Terre depuis 2002. Plus ou moins, j'avais travaillé avant de commencer le travail seulement avec le mouvement Sans Terre. J'avais travaillé avec le mouvement Saint-Ouen au Brésil, et principalement avec un mouvement de la ville de São Paulo, la ville la plus grande du pays. Et il y a plusieurs mouvements Saint-Ouen. Il y a un mouvement qui s'appelle Mouvement d'hébergement du centre. Et j'avais travaillé avec eux pendant 3 ans. Et en même temps, j'avais commencé à travailler avec le mouvement sans terre, le mouvement de paysans sans terre. Et ça, c'était plus ou moins 2001, 2002. Et après, j'ai resté jusqu'à... jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ici en France, je continue à faire des choses avec les mouvements et autour de la problématique paysanne au Brésil. Et bien, on reste en contact, on travaille ensemble encore. Moi, ici en France. Et bien, c'est un peu ça. Et dans les mouvements, peut-être on peut parler plus...
Oui. Puisque tu as évoqué le mouvement des sans-toits, là, avant qu'on passe à la question de la terre et des luttes autour de la propriété de la terre au Brésil, on peut peut-être évoquer ce mouvement des sans-toits, parce que c'est quelque chose qui est... Bon, c'est un mouvement qui est né beaucoup plus récemment.
Oui, une partie du mouvement est plus récent. Je ne sais pas faire toute une histoire du mouvement, mais parce que toujours il y a eu des problèmes d'hébergement au Brésil. Ça, c'est aussi dans les milieux urbains et dans les milieux ruraux. C'est un problème très ancien. Et pour les paysans et pour les gens qui habitent dans les milieux ruraux, il y a un peu la même racine de problème. C'est un peu... ça vient... Les causes plus anciennes, ce sont les problèmes de l'époque de la colonie. Parce que le Brésil était une colonie jusqu'à 1822. Et jusqu'à 1888, ça fait moins de 130 ans, plus ou moins, c'était encore l'esclavage au Brésil. Et la plupart de la population, ce sont des Noirs au Brésil, c'est une majorité de la population noire. Et jusqu'à 1888, des esclaves. Et quand les esclaves ont été libérés, ça, c'est un peu la base du problème pour les paysans aujourd'hui et aussi une partie du problème pour les gens qui habitent au milieu urbain. C'est le problème parce qu'il y a pas eu une réforme agraire pour distribuer la terre à tous ces esclaves qui se sont trouvés en liberté après 1888. Et après, il y avait pas de terre pour, il y avait pas la propriété de la terre, il y avait pas un projet de régularisation de la propriété de la terre. Et tous les esclaves sont partis des fermes pour habiter un peu dans une situation d'irrégularité. Et ça, c'est un peu.
Et la terre est restée entre les mains des colons, quoi, ou de ceux qui étaient propriétaires d'esclaves.
Hein. Oui, parce que jusqu'à 1822, c'était encore une colonie. Tout c'était la colonie de Portugal. Tout c'était propriété de Portugal. Entre 1822 et 1849, un an après la libération des esclaves, c'était encore une monarchie. Et c'était les fils du roi de Portugal qui étaient les rois du Brésil. Et pendant ces années de monarchie, toutes les terres c'était propriétaires du roi. Et les propriétaires individuels, ils avaient une concession d'utilisation de la terre. Et comme les systèmes de monarchie étaient déjà un peu insoutenables et ils savaient que ça allait arriver à la fin, en 1850, ils ont fait une loi de régularisation de la terre, des données avant d'arriver à la fin du régime de la monarchie. Ils ont commencé à partir de 1850 à donner les droits officiels, on pourrait dire, des propriétés de terre.